Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré à la politique internationale vue des coulisses. Nous sommes de nouveau ici avec Phoenix, un romancier, spécialiste du renseignement et commentateur de l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Alors pour ce deuxième épisode, je voudrais parler de la situation présente entre l'Israël, l'Iran et Gaza.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Alors, le 19 avril, donc 6 jours après l'attaque iranienne sur Israël, qui impliquait 331 drones et missiles, Israël a finalement riposté. En revanche, les détails de cette attaque ne sont vraiment pas clairs. Le premier ministre Netanyahou ne dit rien. Un membre d'extrême droite de son cabinet a qualifié la réponse de faible. Et les Iraniens ont qualifié les armes utilisées pour l'attaque de jouets, pas de drones. Alors, que s'est-il passé ?
En fait, on dispose de certains détails. Il semblerait que l'attaque ait impliqué quelques drones de petite taille, comme vous le disiez, et que ces drones aient été lancés à partir du sol iranien, puisque l'autonomie de drones aussi petits ne permettrait pas de les lancer d'Israël, évidemment, ou même de territoires plus proches. Donc ça serait vraiment à partir du sol iranien, et donc sûrement par des agents infiltrés israéliens. On sait aussi que les drones ont touché une base militaire à Ispahan, donc proche de Natanz, qui est une ville où est située une usine d'enrichissement d'uranium. Alors, le gouvernement iranien a tout fait pour dévaloriser la nature de l'attaque, et les Israéliens ont également joué le jeu. La réalité, c'est que les drones ont détruit les radars qui sont au cœur des systèmes de défense anti-aérien S-300, qui sont des systèmes assez anciens russes.
Donc pourquoi une réponse de si faible ampleur ? Soit ils ne répondent pas pour éviter l'escalade, soit ils répondent. Mais là, vous ne trouvez pas que l'attaque iranienne et la riposte sont disproportionnées ?
On est face non pas à deux attaques, mais à deux exemples de diplomatie par les armes. En effet, dans les deux cas, les belligérants ne veulent pas frapper l'ennemi, ils souhaitent rétablir leur deterrent, c'est-à-dire, pour bien traduire, leur dissuasion. Et la dissuasion, c'est essentiel, surtout dans la dynamique du Proche et du Moyen-Orient.
Je ne suis pas sûr de comprendre.
Bon, les Iraniens ont choisi de faire une démonstration de force. Ils ont envoyé 331 drones et missiles, comme vous le mentionnez, dont d'ailleurs la quasi-totalité a été détruite en vol. Mais les Iraniens avaient signalé leur intention. Ça, c'est très important. Hein. Si vous vous souvenez bien, même s'ils n'avaient pas commenté l'information américaine, des services de renseignement américains qui disaient, je ne sais plus, 5 ou 6 jours à l'avance que ça arrivait, ils ne l'ont pas nié non plus. Et c'est assez clair qu'ils souhaitaient que les Israéliens attendent l'attaque. Le bilan, c'est 90%, 99% des drones et des missiles balistiques ont été interceptés avant de toucher leur cible. Alors, les Israéliens devaient riposter. Donc, même si la Maison-Blanche, le gouvernement britannique, en gros tous les Occidentaux, enfin, surtout ceux qui avaient aidé Israël à parer l'attaque iranienne, ont immédiatement, dès le lendemain, dit c'est une victoire pour Israël, etc. Mais comme les Iraniens disaient aussi c'est une victoire pour l'Iran, il n'est pas possible que les Israéliens ne ripostent pas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi de prendre le contre-pied avec une réponse qu'on va dire minime. Il faut en fait voir cette riposte comme un message qui était destiné à une audience, et une seule. Et cette audience, c'est l'IRGC, c'est-à-dire les gardes révolutionnaires, c'est-à-dire le cœur militaire du régime iranien.
Et quel est ce message ?
Le message, il est très clair. C'est « nous pouvons vous atteindre où nous voulons et quand nous voulons ».
Et vous pensez qu'ils l'ont compris ?
J'en sais rien. Le problème, c'est qu'on est face à une guerre de faible intensité qui se déroule sur de nombreux fronts. Quand l'attaque du Hamas se produit le 7 octobre, faut pas oublier, Israël est absolument tétanisé. Pourtant, les signaux étaient là. Si je veux rappeler un peu les faits du début octobre, les services secrets américains, saoudiens et égyptiens avaient prévenu leurs homologues israéliens. Les officiers de renseignement israéliens avaient alerté leur hiérarchie. Des officiers, on va dire, juniors. Mais personne n'avait écouté. À commencer par Netanyahou, qui avait dégarni l'armée du Sud, juste quelques jours avant, pour aller protéger des colons qui voulaient manifester dans les villages palestiniens en Cisjordanie. C'est pour ça qu'on a beaucoup reproché à Netanyahou son comportement et son cabinet d'extrême droite, parce que c'est les cinq partis d'extrême droite qui font partie de son cabinet qui en permanence le poussent à laisser les colons de Cisjordanie faire un peu ce qu'ils veulent, notamment des provocations. Enfin, pour la première fois, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a péché par arrogance, ou encore pire, je pense, par idéologie. En effet, pendant des années, l'approche de Netanyahou a été de tout faire pour limiter l'ascendance du Fatah. Et je sais que c'est paradoxal, donc le Fatah, qui est le parti, le mouvement au pouvoir en Cisjordanie, avec Mahmoud Abbas, et de façon à rendre impossible l'établissement d'un État palestinien. Il paye ses choix, maintenant Netanyahou. Mais en faisant cela, il a indirectement servi les intérêts du Hamas. Au bilan, au lendemain de l'attaque, d'après mes sources aux renseignements israéliens, Netanyahou n'a pas la moindre stratégie. Et au lieu d'attaquer très rapidement, alors qu'il bénéficiait du soutien de l'opinion publique internationale, hein, je parle du début octobre, après l'attaque du Hamas, il tergiverse et il insiste pour commencer l'assaut au nord de la bande de Gaza plutôt qu'au sud, et cela de façon à ne pas contrarier les Égyptiens. 7 mois plus tard, on est dans l'impasse.
Comment ça ? La guerre continue, des civils meurent, partout dans le monde des manifestations ont lieu, et les campus américains sont bloqués.
Ça c'est différent. Le timing des manifestations étudiantes aux États-Unis, c'est pour protester contre l'aide de 18 milliards de dollars destinée à Israël qui vient d'être votée.
Qui fait partie du package de 95 milliards dont nous avons parlé la dernière fois.
C'est ça. Donc on a trois protagonistes. Israël, le Hamas et l'Iran. Alors commençons par le Hamas. Sinwar, qui est le chef du Hamas à Gaza, est en désaccord depuis des mois, comme le rapporte régulièrement la presse israélienne, Ismaël Haniyeh, qui lui est le chef du Hamas à Doha. Le second, Ismaël Haniyeh, veut négocier. Très clair. Mais le premier ne veut pas en entendre parler. Il est toujours dans son tunnel, il est entouré d'otages et il est protégé par ses soldats. D'après le renseignement américain, d'ailleurs, Sinwar, ce serait lui le principal obstacle aux négociations de libération des otages. N'oublions pas d'ailleurs, c'est que la négociation des otages, elle est toujours contre évidemment une libération d'un nombre beaucoup plus important de combattants du Hamas qui sont dans les prisons israéliennes, mais que le problème aussi, c'est que plus le temps passe, moins il y a d'otages. Les conditions de détention sont absolument terribles d'après les témoignages et les otages, et il y en a beaucoup, ceux qui ont besoin de médicaments, ceux qui sont vieux, etc., qui meurent. L'Iran, c'est pas mieux. Contrairement à l'image qu'on présente d'une soi-disant puissance dominante maintenant au Moyen-Orient, la situation n'est pas brillante. D'abord, il y a les sanctions économiques, et malgré le pétrole, qui finance les coûts astronomiques des proxy states, hein, donc c'est-à-dire les milices chiites en Irak, le Hezbollah, les Houthis au Yémen.
Le Hamas n'est pas un proxy ?
Pas exactement. Le Hamas, c'est plutôt un allié de convenance qu'un proxy. Les proxys iraniens, c'est vraiment les Houthis du Yémen, hein, donc c'est l'Iran qui a permis aux Houthis de, on va dire, de gagner contre l'Arabie Saoudite pendant la guerre au Yémen. Il y a à peu près 30 000 soldats Houthis, plutôt bien armés. Ont-ils vraiment la confiance des Iraniens ? Ouais, dans une certaine mesure. Il y a les milices chiites en Irak. Bon, ils sont pas aussi nombreux et leur présence est beaucoup plus diffuse, mais surtout il y a le joyau de la couronne des Iraniens qui est évidemment le Hezbollah. Le Hezbollah, on ne sait pas exactement, mais c'est entre 50 et 100 000 soldats, très très bien entraînés maintenant, semble-t-il, comparé à, disons, il y a 10 ans ou 20 ans. Et il ne faut pas oublier non plus, donc ce sont des chiites libanais, mais beaucoup de familles du Hezbollah d'ailleurs sont d'origine iranienne. Et il y a un lien très très fort entre Téhéran et le Hezbollah, comme on le sait. Donc, pour revenir sur l'Iran, donc l'Iran souffre économiquement. La répression contre la population civile, surtout dans les villes, s'est beaucoup accentuée dans les dernières années. D'ailleurs, quand le 1er avril, Israël a détruit le consulat iranien, d'après mes sources, les réseaux sociaux en Iran se sont drôlement réjouis. Ils étaient assez contents parce que certains des officiers, enfin des généraux de l'IRGC qui étaient à l'intérieur du consulat, ont participé à cette répression justement contre les civils dans les grandes villes iraniennes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le régime de Téhéran a peur. Il ne pouvait pas ne pas riposter face à la destruction de son consulat, puisqu'il a considéré, et à juste titre, que c'était une intrusion sur son territoire. Mais en même temps, ce qu'il ne voulait pas, c'était, parce que s'il ne riposte pas, évidemment, il paraît faible. Mais s'il ripostait trop, eh bien, il avait évidemment peur d'une réaction d'Israël qui aurait été terrible sur le sol iranien et qui aurait, du coup, fait paraître le régime de Téhéran faible. Parce que, du coup, il pouvait avoir peur de répercussions sur sa population, c'est-à-dire, qui sait, un soulèvement ou quoi que ce soit. Alors, Israël, c'est pas mieux. Évidemment, on peut pas parler d'Israël sans parler de Netanyahou. Et ce qui se passe, c'est que même si 70% des Israéliens veulent des élections le plus vite possible, et que si vous regardez l'histoire d'Israël, il n'y a pas une seule fois où il y a eu un problème mal géré, comme par exemple la guerre du Kippour, et où le Premier ministre en place n'a pas sauté après, donc il n'y a absolument aucun doute que Netanyahou va partir. Mais à cause de ça, Netanyahou a intérêt à ce que la guerre continue. Parce que tant qu'elle dure, il peut être sourd aux demandes d'élection. En effet, s'il y avait des élections demain, il perdrait à coup sûr, il partirait. Mais là, ses problèmes recommenceraient. Il y aurait forcément une commission d'enquête pour déterminer sa part de responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Et ça, c'est évidemment sans compter ses très très nombreux problèmes judiciaires. Donc, pour conclure, que ce soit les Iraniens, Netanyahou ou le Hamas, ils ont tous intérêt à ce que la guerre continue, mais personne ne veut jouer l'escalade.
Alors, quelles sont les prochaines étapes?
C'est sûrement l'attaque sur Rafah. Rafah, c'est le dernier bastion du Hamas, c'est le sud de la bande de Gaza, mais c'est aussi une vraie boîte de Pandore. C'est là où sont réfugiés plus d'un million de civils palestiniens, c'est là où est réfugié le leader du Hamas à Gaza, Sinwar, dont je parlais tout à l'heure, qui est entouré de beaucoup de combattants du Hamas. On estime que jusqu'à maintenant, l'armée israélienne a détruit à peu près entre un quart et la moitié des combattants du Hamas. Et Sinwar est entouré de ces combattants du Hamas et aussi des otages qui ne sont pas encore morts. D'après nos sources d'ailleurs, certains membres des services de renseignement et de l'armée voulaient commencer par Rafah au lendemain de l'attaque du 7 octobre, mais c'est Netanyahou qui ne voulait pas. Apparemment, il est, comme j'expliquais, il est obsédé par l'idée de garder les Égyptiens de son côté.
Et le rapport entre les Égyptiens et Rafah?
Ah, bah, c'est simple, les Égyptiens, ils ne veulent pas avoir toutes les caméras du monde entier qui soient braquées sur le poste aux frontières de Rafah. Rappelons-nous, Rafah, c'est le sud de la bande de Gaza, donc c'est la frontière avec l'Égypte. Et d'avoir des milliers de civils palestiniens désespérés qui se pressent contre les grilles avec les militaires égyptiens qui les repoussent.
D'accord, mais cette attaque sur Rafah, on en parle depuis 2 mois.
Tout à fait, oui. D'ailleurs, ce que j'entends, moi, ou ce que j'ai entendu, c'est que l'armée n'arrêtait pas d'insister auprès de Netanyahou pour le faire. Mais Netanyahou a tergiversé. Il est tout à fait possible qu'il ait utilisé la menace de l'attaque. Et d'ailleurs, le désastre que ça représenterait pour les civils, afin de pousser le Hamas dans leur retranchement sur la négociation des otages, qui dure depuis des mois et des mois et des mois et n'avance pas. Il y a des points de blocage partout. Et comme je disais tout à l'heure, le point de blocage, il semblerait que ce soit Sinwar. Netanyahou, il a besoin des Américains, ou il a eu besoin des Américains pour contrer l'attaque de l'Iran. Il a démontré qu'il était capable d'une réponse mesurée, hein, donc cette fameuse réponse du 19 avril. Il a eu, avec le vote du package militaire de 95 milliards, il a eu 18 milliards d'aide militaire pour Israël. Et bah, maintenant, il est passé à la prochaine étape. N'oublions pas, hein, aucun premier ministre israélien ne peut accepter de cesser le feu sans libération des otages. C'est absolument impossible. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux brigades, la 679e brigade motorisée Yifta et la 2e brigade d'infanterie Carmeli, qui ont été déployées près de la bande de Gaza, en réserve, tandis que une autre brigade, la brigade Nahal, elle, va être chargée de mener l'assaut contre Rafah. Ce qui me fait dire que c'est très probable, c'est que apparemment le renseignement israélien a même briefé le renseignement égyptien, donc ils parlent. Au même moment, il n'y a aucun doute que les négociations continuent à Doha, entre les Israéliens, les Qataris, le Hamas, et tout ça sous pression des Américains. Mais l'assaut vient, et à moins évidemment que les otages soient libérés entre-temps.
Et les Américains ?
Joe Biden a tout intérêt à ce que la guerre se conclue le plus vite possible. D'ailleurs, tout le monde a intérêt à ce que la guerre se conclue le plus vite possible, sauf Netanyahou, les Iraniens ou le Hamas. N'oublions pas que Joe Biden a une élection à gagner le 5 novembre, c'est dans 6 mois. Et cette élection, encore plus que les autres, elle va vraiment être concentrée sur 7 États, 7 États sur les 50. Hein, pour 43 États, en gros, les dés sont à peu près jetés. Mais sur ces 7 États, il y en a 3 dans la Rust Belt qu'il doit absolument gagner, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Et l'État du Michigan, il a une particularité, c'est là où on trouve la population en pourcentage la plus concentrée d'Arabes américains. Et on a vu, avec les primaires démocrates, que ces Arabes américains avaient une grande faculté de mobilisation et qu'ils voulaient véritablement faire payer à Joe Biden son soutien à Israël. Donc, si Biden réussit à obtenir un cessez-le-feu et un arrêt de la guerre avant novembre, il a des bonnes chances de pouvoir retourner cette population arabo-américaine qui est vraiment pas contente avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il a vraiment besoin de gagner cet État.
On en revient toujours aux Américains.
Ben oui, hein, d'un côté, on a une certaine volonté de semer le chaos, que ce soit les Iraniens, les Russes, les Nord-Coréens, tous soutenus financièrement, politiquement, diplomatiquement par la Chine. Et face au chaos, il faut de l'argent. Et l'argent, ce sont les États-Unis qui l'ont.